des procureurs généraux sur les narcotiques et les drogues dangereuses.
Pour combattre efficacement ce fléau, il faut que chacun d'entre nous essaie de concevoir et d'imaginer ce qui se déroule dans l'esprit envoûté des toxicomanes. Par exemple, un toxicomane sous l'empire des drogues appelle le mégot un roach, un cafard, disons. Car il y voit un genre de cafard. Or, ce genre de comparaison morbide...
Putain, mais de quoi il parle, ce con-là? Il faut être raide à l'acide pour trouver qu'un joueur ressemble à un cafard. Tu te merdes.
Tous les lundis, à 21h, sur Radio Canu.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus, bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bonsoir. bien sur les ondes de Radio Canus, 102.2 MHz, c'est la plus rebelle des radios, et comme tous les lundis soirs, eh bien c'est l'émission du cirque du collectif d'information et de recherche Cannabis, que vous pouvez toujours joindre au 06 11 53 10 07, 06 11 53 10 07.
Voilà.
Voilà, voilà. Donc, au sommaire ce soir, les États-Unis, hein, parce que ça continue. Hein. Après l'Uruguay, dont on avait beaucoup parlé. D'ailleurs, il y a même des polémiques à ce sujet-là. Je ne sais pas si on en parle. Disant que le nouveau président voudrait peut-être arrêter cette loi. Mais bon. Sinon, aux États-Unis, ça avance. Après l'État de Washington, le Colorado, maintenant il y a l'Alaska. Enfin, bientôt, le 24.
Ouais.
Bah si, ça y est, c'est fait.
Ça y est, oui, l'Alaska, c'est bon. Ouais.
C'est fait aussi pour le...
Depuis le jeudi 26, l'Alaska.
Pour Washington DC.
Pour la ville de Washington, donc l'État de Columbia.
Oui. La capitale des États-Unis. Ah, sauf dans les terrains de l'État. C'est bien ça, donc sur l'esplanade, par exemple.
Bah, sur les terrains qui appartiennent à l'État fédéral.
On va revenir sur tout ça. On reviendra sur tout ce qui se passe dans la justice américaine.
Puis on ira faire un tour en Jamaïque aussi.
Oui, on va aussi revenir sur les neufs de la DEA et le Nebraska et l'Oklahoma qui attaquent donc l'État du Colorado, qui menace d'attaquer ou qui, oui.
Bah, qui menace de plus en plus. Là, il y avait des menaces déjà il y a deux mois et puis là, ceux qui menacent se dévoilent. Donc, c'est les neuf anciens administrateurs de la DEA.
Oui, entre autres, oui.
Entre autres, oui.
Voilà, mais on va revenir sur tout ça. On reviendra aussi sur un article qui dit une étude qui montrerait que le cannabis est 114 fois moins dangereux que l'alcool. Bah, voilà, quoi, il y a des trucs intéressants dans cette revue de presse. On va revenir là-dessus. Il y a d'autres sujets dont on va parler qui sont intéressants. Si on va revenir enfin sur...
Si on a le temps, on devrait avoir le temps de revenir sur la Hollande et les lois telles qu'elles existent en fait en Hollande.
Voilà, parce que souvent elles sont mal connues, donc
mal
comprises, c'est un truc dans Saint-Cycide. On reviendra là-dessus. Si on a le temps, ça fait déjà deux fois qu'on vous le promet, ou trois fois même, voilà. En tout cas, on va partir en musique.
On va partir en musique, voilà. Et puis, dans le courant de l'émission, on vous posera une petite colle, une petite question pour celles et ceux qui souhaitent gagner des places pour Technigro le 27-28 mars prochain.
Ah.
Donc, on vous posera une question. Pour l'instant, on est en train d'y réfléchir.
J'ai juste un petit problème. J'ai un trait d'erreur sur mon disque. Il faut que j'en mette un autre. Quelques petites difficultés techniques qu'on va essayer de résoudre. Comment ?
Le CD se lance pas.
Non. Oh, bah, non, c'est bien.
C'est pas croyable. Vous êtes bien en direct. Dans l'émission Cannabis Circus, on a un problème de CD qui ne veut pas être lu. Enfin, la platine ne veut pas lire le CD. Donc, on va changer de CD, on va partir en musique. je te le donne. Et on va mettre aussi la 2.
D'accord.
On est désolé de vous faire patienter.
Et
c'est
donc
parti.
On y va.
Oh, take the love.
Voilà, c'était les Rolling Bidochons avec Tax Madope. Voilà.
Voilà, pourquoi pas, c'est un bon programme, des, c'est tout à fait...
Des Rolling Stones.
Mais, même s'il commence à dater un petit peu, qu'on ne l'a pas écouté souvent, hein, mine de rien, parce qu'il est un peu long, donc en général, on le zappait, mais... Et voilà, du coup, comme on est obligé d'essayer de se renouveler...
La prochaine, on mettra la 13.
D'accord. Voilà. Donc on en était à attaquer sur les États-Unis, donc
attaquer sur les States.
Donc il y a l'Alaska donc qui a donc légalisé le 26.
Et alors non, en fait l'Alaska a légalisé
le 24, pardon.
Non, même pas. Ils ont enfin les électeurs de l'Alaska ont voté pour la légalisation dans l'État de l'Alaska. C'était en novembre 2014, à l'occasion des élections de mi-mandat.
Et c'est mis en place, pardon.
Et c'est mis en place, voilà, à partir de jeudi la semaine dernière, donc du jeudi 26 février à minuit. Donc voilà, c'est entré en vigueur. Donc c'est une loi qui avait quand même été approuvée par référendum et qui permet donc de posséder jusqu'à 60 grammes de cannabis, mais aussi de cultiver jusqu'à 6 pieds de marijuana à son domicile, la vente restant bien sûr interdite. Tout ce qui est paraphernalia, par contre, est autorisé à la vente, c'est-à-dire pipao, papier à rouler, etc. Reste autorisé à la vente. Voilà. Alors, il y a des petites... alors ça, c'est pour l'Alaska, mais après, alors il y a plusieurs
non,
articles.
Ça, c'est pour Columbia, ça. L'Alaska, lui, c'était le 24, et donc Columbia, c'était le jeudi 26.
Ah oui, excuse-moi, oui, t'as raison, voilà. L'Alaska, c'était deux jours avant, ouais.
Tout à fait.
Donc c'est Washington, la ville de Washington, à partir de jeudi minuit.
Voilà, tout à fait. En tout cas, c'est en fait deux de plus à aux deux autres. Hein. C'est vrai qu'on le savait que ça avait été adopté, mais là, c'est la mise en place. Alors, il y avait un petit bémol, on vous en avait parlé. On vous disait que l'État de... Voilà, le Parlement, les Républicains, ou comment ça s'appelle ? Oui, au Parlement américain.
À Washington,
oui. Oui, à la chambre, leur chambre de députés, ou je sais pas quoi. Bon, bref, avait bloqué un petit peu, voulait bloquer cette loi en disant qu'il y avait des prérogatives, vu que eux, ils étaient, que c'était la capitale de l'État fédéral. Et donc, il y avait Bisbee, on avait compris que c'était un peu morné, et puis, ben non, pas du tout, voilà, ça s'est fait. C'est sorti, et en fait, ils avaient bien déposé quelque chose parce que et il reste donc les terrains étatiques qui seront interdits aux consommateurs. Donc en particulier l'esplanade. si j'ai bien suivi.
La grande esplanade même.
Voilà.
Du mall à Washington.
Et donc à part ces terrains-là, malgré qu'ils aient déposé une phrase à la fin pour essayer d'interdire cette loi, eh ben elle n'a pas été prise en compte parce que déposée que trop tardivement. Et que le reste et que la mise en pratique a été approuvée par référendum, donc. Et donc, ils ont appliqué, c'est bien quand même, il y a une certaine démocratie aux États-Unis, on peut le reconnaître.
Oui, oui, voire même plus que chez nous, on dirait.
Sur certains points, non, en tout cas. Ouais,
c'est toujours à géométrie variable, hein, l'application des règles démocratiques selon les États dits démocratiques, justement. Alors, ça fera partie, ça sera, écoutez bien ce qu'on va dire là dans le courant de l'émission, parce que ça... La question pour gagner une place à Technigro sortira de l'actualité aujourd'hui. Donc, voilà, il y a quand même un autre État qui risque d'être concerné par une légalisation. C'est aussi, comme pour l'Alaska, ça a été voté durant les élections de mi-mandat. C'est donc l'État de l'Oregon, à partir du mois de juillet. L'État d'Oregon qui avait déjà rejeté une proposition de légalisation il y a 4 ans, je crois, ou 3 ou 4 ans, et qui du coup avait remis le couvert là, au mois de novembre, et là c'est passé. Donc l'Oregon deviendra le prochain État où il y aura une loi de légalisation mise en œuvre pour le cannabis récréatif.
Voilà, tout à fait.
Voilà.
Avec, on le voit, des applications assez différentes d'un État à un autre, hein. Où ça va de la totale légalisation à un certain contrôle, à une loi où on n'a le droit que de planter, mais il est interdit, toute vente est interdite. ouais. comme Washington DC, qui est un exemple qui peut être aussi considéré comme intéressant. Voilà. Alors sinon, toujours dans la... On va continuer, on va passer à un autre article du Monde qui concerne les attaques sur le Colorado. C'est en fait, donc, c'est là les 9 anciens de la...
C'est pas dans le Monde, c'est dans Cannabis Info.
Ah, c'est dans Cannabis Info, pardon. Oui, oui, tout à fait. Dans l'autre du Monde...
Par contre, j'ai pas trouvé d'où sortait l'article là, de Cannabis Info. Je me demande, c'est pas un article qui vient des États-Unis qui a été traduit, parce qu'il y a quelques passages là où la traduction est un peu folklorique, même si on comprend bien le sens. Mais bon, bref, peu importe. Donc, en ce qui concerne les attaques contre les lois de légalisation, effectivement... là, c'est 9 anciens administrateurs de la DEA, donc la Drug Enforcement Administration, qui récemment ont signé une pétition, jeudi, donc dernier, demandant justement à la Cour suprême des États-Unis d'annuler la loi sur la légalisation du cannabis au Colorado. Voilà.
Tout à fait.
Alors, parmi leurs arguments, faut vous intéresser un peu à ce qu'ils disent, hein. Donc ces anciens administrateurs disent carrément que le Colorado a délibérément établi le trafic d'une substance contrôlée que le Congrès et les administrateurs de la DEA ont à plusieurs reprises identifié comme extrêmement dangereux pour la santé et pour la population.
Non, extrêmement dangereux. C'est pas la substance qui est dangereuse.
Ah, le trafic.
C'est le trafic de cette substance qui a été identifiée comme extrêmement dangereux.
Je voyais bien qu'il n'y avait pas mais c'est moi qui l'ai rajouté là.
Oui, oui, justement, c'est pour ça. Je pense que c'est une nuance très importante parce que sur ce point-là, dit comme ça,
ça peut passer.
On peut même pas dire que c'est totalement faux si c'est bien le trafic, parce que justement c'est le trafic qui, et donc c'est la prohibition, le trafic dû à la prohibition, c'est l'histoire du serpent qui se mord la queue.
Ouais, mais je suis pas sûr qu'il le voit comme ça, hein.
Je suis pas sûr qu'il n'ait pas fait exprès de le tourner de façon aussi bizarroïde.
D'accord. Bon, oui, je veux bien le croire. Je suis assez convaincu sur le fait qu'il considère que le cannabis est aussi quelque chose de très dangereux.
Voilà. Et sinon, il y a aussi deux autres États qui déposent une loi contre le Colorado. Donc, c'est le Nebraska et l'Oklahoma. Parce que la légalisation dans le Colorado, comme eux et son voisin, cela a un impact négatif sur leurs résidents. la Cour est intervenue sur d'autres États pour s'acquitter de produits, parce que les États d'à côté avaient des produits toxiques ou des déversements d'ordures. Et donc, avec cette expérience-là, ou sur ces antécédents, ils veulent assimiler la consommation de cannabis chez leurs voisins. C'est un petit peu injurieux pour les des déchets ou des dépôts de produits chimiques.
D'accord. Alors il faut peut-être répéter parce que c'est pas bien clair, mais
c'est pas bien clair. Mais là aussi c'est assez.
Juste pour dire en fait, voilà, ce que je veux clarifier, c'est que la Cour est déjà intervenue pour empêcher des États de s'acquitter de produits chimiques ou toxiques ou du déversement d'ordures. Oui. Donc de la même manière, la Cour suprême doit empêcher donc des États comme le Colorado de légaliser un produit chimique toxique au même titre que on est intervenu pour des produits chimiques ou toxiques dans d'autres États. Ils se basent là-dessus en fait.
Voilà, tout à fait. Parce que ça a un impact négatif sur leurs résidents. Juste les fumées, justement, des consommateurs de cannabis à traumatiser les voisins qui habitent à des milliers de kilomètres.
D'ailleurs, dans leur requête, ils poursuivent en disant que la Cour doit intervenir pour arrêter la pollution que l'effort du Colorado a établi dans un marché de substances illicites contrôlées et qui serait à l'origine de problèmes de santé et du bien-être des citoyens dans les États d'à côté, Nebraska et Oklahoma. Voilà. Donc, on pâtir des productions toxiques ou chimiques qui vont émaner et qui vont se disperser dans l'État voisin.
Voilà. Mais en tout cas, bon, on aura les résultats de tout ça vers le 27 mars, si tout va bien, si on suit bien l'actualité. Et on vous dira ce qu'il en est à ce moment-là.
Alors, oui, juste quand même, pour avant de finir, là, ils y vont fort quand même, ces anciens chefs de la DEA, parce qu'ils s'en prennent clairement au président qui a permis la légalisation, ou qui en tout cas a volontairement ignoré la violation de la loi fédérale au Colorado. Il est accusé d'avoir fermé les yeux et de rester les bras croisés alors que le Colorado viole le droit fédéral. Oui. Voilà. Ouais, et forcément, ils finissent par dire que tout ça, bah, ça compromet gravement l'efficacité de leur administration dans la lutte anti-drogue. Bah oui, forcément. D'ailleurs, l'objectif, c'est qu'en légalisant, on recentre ou on arrête de mener des politiques anti-drogue de la même manière, et donc ça suppose qu'on arrête de financer des administrations dédiées à ce seul but, en fait. Oui. Donc forcément, ils flippent un peu parce qu'ils risquent de voir leurs copains qui sont peut-être toujours à la DEA se retrouver au chômage.
Ouais, bah, ils peuvent, je pense, facilement les recycler avec tout ce qu'il y a à faire. Et...
Oui, bien sûr, mais bon, visiblement, c'est pas pour rien qu'on appelait ces gens des croisés, parce qu'ils étaient particulièrement impliqués d'un point de vue moral aussi dans les campagnes anti-drogue qu'ils menaient, les croisades, justement.
Mais je pense qu'ils seraient certainement très bien utilisés contre la lutte, contre le financement ou la défiscalisation, y compris aux États-Unis.
Ou l'évasion fiscale.
Je crois que c'est aussi le cas là-bas. Oui. Juste tout à l'heure, quand on parlait des deux articles du Monde, en fait, c'était un deuxième article qui avait le 24 février dans le Monde, qui en fait lui parlait surtout de l'Alaska, donc c'est celui qui a légalisé le troisième, donc le 24 février, et où donc là-bas on peut avoir jusqu'à 28 grammes de marijuana, soit une once ou une demi-once, c'est ça.
Oui.
Voilà, donc on peut la transporter ou la faire pousser. Voilà, il faut avoir plus de 21 ans, bien sûr, mais... c'est une légalisation de la marijuana par les adultes dans les lieux privés.
Alors, il vaut mieux habiter à Washington, parce qu'on peut en avoir jusqu'à 60 grammes.
Ah, ouais, ouais.
Je sais pas s'il vaut mieux.
Voilà. Oui, mais c'est... Pour l'instant, le plus facile, c'est le Colorado. Est-ce que c'est la meilleure des légalisations? Même si c'est rentable très rapidement, c'est vrai que dès qu'on laisse le marché... faire, il regorge d'énergie quand il y a de l'argent à faire. Mais est-ce que c'est la meilleure idée, la meilleure façon de faire?
Bonne
question. En tout cas, ce qu'on peut se poser.
Tous les lundis à 21h sur Radio Canu.
T'en veux?
C'est quoi?
Du poppers!
Non, je te remercie.
Cannabis Circus.
Allez, ben on va continuer sur l'étude. Où il y a un autre article aussi, 24 News, sur des rabbins new-yorkais aussi.
24 News, oui.
24 News, des rabbins new-yorkais. Donc là, c'est dans quel état qui est déjà légal aux États-Unis?
Eh bien, c'est à New York. Dans l'état de New York, oui.
Mais c'est pas dans un état qui a déjà légalisé, ça?
Non, certes, mais...
Mais néanmoins, voilà.
Visiblement, là, c'est ce qui concerne le cannabis médical. Hein.
Oui, oui, tout à fait. Tout
donc
à fait.
Là, par contre, dans l'État de New York, le cannabis médical est déjà légal. Donc voilà.
Et donc, eux, ils veulent pouvoir importer du cannabis ou faire du cannabis cachère.
Ils voudraient pouvoir consommer, ou en tout cas que du cannabis cachère soit distribué aux malades juifs qui auraient besoin de cannabis thérapeutique. Donc voilà, ça paraît assez incroyable, mais en tout cas, c'est ce qu'a rapporté la semaine dernière un site israélien d'information, Ynet. Et c'est un rabbin qui est un peu le porte-étendard de tout ça, c'est le rabbin Moshe Elephant, président de l'agence de certification cachère de l'Union orthodoxe, et il a engagé des discussions préliminaires avec des organismes désireux d'obtenir l'approbation cachère pour l'usage médical de la marijuana. Voilà, d'après le site Jewish Daily Forward, l'Union orthodoxe n'aurait aucun problème à certifier le caractère cachère de la marijuana médicale, a déclaré ce rabbin. A priori, s'ils sont capables de déclarer cachère des aliments, visiblement, ils devraient pouvoir le faire pour du cannabis. Il semblerait que ça pose pas de problème. Alors, d'après ce site Jewish Daily Forward, les rabbins orthodoxes auraient reconnu les bénéfices du cannabis thérapeutique, mais ils resteraient quand même beaucoup plus sceptiques quant à la marijuana récréative. Visiblement, ils ne savent pas que ça peut être la même. Donc, je ne sais pas, ce serait intéressant de voir les représentations qu'ils ont de l'un et de l'autre, voir un peu ce qu'ils mettent dans le récréatif et ce qu'ils mettent dans le thérapeutique, ou qu'ils enlèvent dans l'un et qu'ils enlèvent dans l'autre, ou rajoutent, je sais pas. Alors, pour ça, pour information, le cannabis médical existe et est déjà distribué en Israël. Il y a déjà du cannabis qui est certifié kasher en Israël, où il y a 11 000 personnes qui peuvent déjà se procurer du cannabis thérapeutique en toute légalité. 11 000 personnes, c'est énorme en Israël, hein, qui sont consommateurs de cannabis thérapeutique. Je trouve ça beaucoup.
Ça fait pas mal, en effet.
Et donc, l'obtention de la certification kasher du cannabis devrait intervenir dans le courant de l'année prochaine. Voilà. Ça peut faire sourire, mais... donc voilà. Après le cannabis médical kasher, peut-être le cannabis médical halal, ou à l'autre, ayant bénéficié de l'extrême onction du curé du village, je sais pas... Pourquoi pas?
Voilà, donc sinon, juste pour compléter tout ce qui se passe au médical, rappelons quand même qu'aux États-Unis, il y a 23 États
qui ont légalisé le cannabis à des fins médicales.
Voilà.
Et 23 sur 52.
Voilà, il y a même du cannabis médical qui est vendu dans un distributeur à Vancouver.
Dans l'État de Washington, exactement. Non, à Vancouver, c'est... excusez-moi.
C'est en Alaska.
C'est en... Oui. Voilà. Non, Vancouver, c'est pas en Alaska, c'est au Canada. C'est au sud-est, sur le bord de la côte pacifique, la frontière américano-canadienne, en fait.
Voilà,
c'est une ville canadienne, mais sur le continent. Voilà. Excusez nos petites approximations en géographie.
Voilà ce qu'on pouvait dire.
Pour le moment, on va partir un peu en musique, et puis on va revenir tout de suite après. T'es d'accord?
12.
Eh ben, allez, à tout de suite.
Jamaïca, l'île du reggae rock, colonisée comme le peuple d'Afrique. Jamaïca, terre métissée là-bas, dans l'océan Atlantique. Le soleil donne à fond toute l'année, c'est les tropiques, y'a qu'à danser. Le zouk, la biguine ont vite évolué au rythme des tam-tams des cousins enchaînés. Peuple respectueux de la terre et du sang, de la nature, la mer, le ciel et le vent. Fout un petit wam, fume un calumet, chante une chanson, regarde la lune passer. No doubt, life is just a simple game. No doubt, life is what you say. No doubt, life is just a simple game. No doubt, life is what you say. Les esclaves puis la coco, le linge sale, se lave en famille, messieurs les colons, allez dealer dans vos maisons. Je sais c'est plus pratique de déplacer les problèmes, de squatter chez les autres en contrôlant le système. Faire chier un môme parce qu'il fume un bédo, c'est plus facile que s'en prendre à celui qui tout en haut. À travers une société, des impôts à l'État, ça c'est le business. Laissez-moi rire, on parle de légaliser. Vous allez passer la branche, vous êtes assis pour encaisser. No doubt, life is just a simple game. No doubt,
S'écouter Carpat avec le morceau Lord. Et la prochaine fois, on mettra la 13.
Ouais.
Parce que c'était celle-là que je voulais mettre.
Ah là, mais du coup, on était en Jamaïque et ça tombe bien parce que là-bas aussi, on va enfin pouvoir se la rouler douce. Comme le titre Michel Henry, le 25 février dans Libération.
Voilà, qui fait un petit retour un peu sur ce qui se passe actuellement en Jamaïque, mais qui revient aussi dans son article. Largement sur les États-Unis et qui reprend les infos dont on vient de vous parler. Mais bon, en Jamaïque, effectivement, beaucoup de personnes se demandent peut-être qu'est-ce qui se passe en Jamaïque, c'est ben légal là-bas depuis longtemps. Ben non, en fait, pas du tout. C'est comme dans beaucoup de pays du monde, voire dans la majorité des pays du monde, c'était encore un délit et donc vous pouviez être arrêté parce que vous fumiez du cannabis. Il y a une plus grande tolérance qui vient de se mettre en place et la Jamaïque a voté mardi dernier la dépénalisation de l'usage du cannabis selon une loi adoptée par la Chambre des représentants. Et là donc vous avez la possibilité de détenir un peu moins de 2 onces, soit environ 56,6 grammes. En dessous de ce seuil, visiblement vous risquez de ne pas être poursuivi. Ou au pire d'une simple amende, sans inscription au casier judiciaire. Et on tolère également une culture de cannabis jusqu'à 5 pieds. Voilà. Ce qui vient de se décider en Jamaïque. C'était encore interdit et un délit, voilà, encore.
Tout à fait. Et maintenant, donc, c'est légal d'avoir jusqu'à 2 onces.
C'est dépénalisé, en tout cas.
Ouais, jusqu'à 2 onces. Donc 56,6
grammes, voilà. Au pire, vous auriez qu'une amende, si jamais vous étiez pris avec une telle quantité.
Voilà, donc c'est quand même une grande avancée. Mais ça n'empêche pas que le ministre de la Sécurité, Peter Brun-Bünding, a prévenu quand même que l'adoption de cette législation ne signifie pas que tout devient permis en matière de culture, de transport, de trafic et d'exportation de ganja. Hein. L'usage, voilà. Donc,
l'usage en public est toujours prohibé.
Voilà.
En théorie.
Mais déjà, les Rastafari pourront néanmoins en consommer pendant de leur cérémonie religieuse.
Oui, oui, oui. C'était déjà... il me semble que c'était un peu pour ça que ça avait été... commencé à être débattu il y a déjà un petit moment. Parce que justement, les Rastas disaient qu'il y avait une discrimination et que pour leur office religieux, ils en avaient besoin. Et effectivement, a priori, on a bien le droit de distribuer du vin quand on va à la messe, quand on est curé, non ?
Ouais.
Je ne suis pas un pro de tout ça, mais il me semble que le vin fait partie de la religion, enfin du christianisme.
Hein. On donne du pain aussi.
Du pain, oui, moi qui ai eu l'ergot de seigle dessus, ça ne fait pas la même chose quand même, mais bon. Donc voilà, eux, ils disaient, ben, a priori, il y a une discrimination, on devrait pouvoir en fumer si on est rasta et qu'on a... et qu'on célèbre notre religion, nos rites. Voilà. Donc,
voilà. Du pain, du vin, des jeux, voilà, le paradis.
Bof.
C'est César qui parlait des jeux, du pain et des jeux, lui, c'était...
Alors, surtout ce qu'on dit, ce que dit Michel Henry un peu plus loin, c'est que cette dépénalisation en Jamaïque, elle permettra... devrait permettre aussi le développement de l'usage thérapeutique. Et il nous dit comme ça, la Jamaïque se verrait bien manger une part du gâteau qui se développe dans ce domaine, notamment aux États-Unis. Donc là, il revient sur les États-Unis. Mais bon, donc voilà, donc en Jamaïque, le côté thérapeutique est aussi reconnu, si j'ai bien compris. Et donc là, ils font les deux un peu. Hein. Ils dépénalisent le récréatif et visiblement une tolérance aussi sur le thérapeutique en plus du récréatif. Voilà, je sais pas ce que tu veux rajouter d'autre parce que le reste de l'article ça reprend un peu tout ce dont on a parlé
tout à fait, juste peut-être juste avant, la conclusion hein. Donc ouais, il reprend un petit peu tous les états, à peu près tout ce qui se font un peu tous avec les différences de 28 grammes 14 chez d'autres, je crois, chez le moins fort, et jusqu'à 60 chez le plus. Bref, le nombre de pieds, les quantités, les modes de mise en circulation diffèrent un peu d'un état à l'autre, mais ça n'empêche pas qu'on arrive au cinquième, hein, donc avec l'Oregon. Et donc, il n'y a que les parlementaires républicains qui s'opposent
à tout ça.
Hein. À tout ça, mais la bataille est plus que symbolique. Si le cannabis devenait légal au cœur du pouvoir américain, qui mène depuis les années Nixon une sévère et inefficace guerre aux drogues à coups de centaines de milliards de dollars à travers le monde, cela enverrait un sacré signal à la planète.
Et peut-être à la France.
Ah.
Alors, pour avant de tourner la page américaine, juste revenir là-dessus, parce qu'on a oublié, on a un peu zappé l'info, mais... Il y a un gouverneur, alors je ne sais pas de quel état, je crois comprendre que dans l'article, c'est le gouverneur de l'Alaska. Si c'est le cas, c'est aussi un républicain. Hein, faut savoir quand même qu'en Alaska, si c'est passé, cette loi, c'est une espèce de coalition entre républicains et libertariens, qui sont des partis tous deux complètement, enfin radicalement opposés à toute intervention de l'État dans la société et dans la gestion des affaires publiques. Et donc, voilà, il y avait quand même des républicains à l'origine de la votation de la loi en Alaska pour la légalisation. Alors effectivement, au niveau du Congrès, de la Cour suprême aux États-Unis, il y a aussi beaucoup de républicains, et eux, par contre, ils sont visiblement pas aussi téméraires que leurs collègues alaskiens. Mais en tout cas, voilà, Bill Walker, donc, qui est un gouverneur, lui, il veut faire les choses carrées. Il a notamment présenté un projet de loi pour créer un bureau de contrôle de la marijuana. Voilà. Donc, là, c'est vraiment pour officialiser la légalisation, mettre en place une administration qui gère le commerce de la marijuana.
Tout il faut des contrôles.
Il faudra bien passer par là à un moment.
Il faut des études. Il faut que la science avance pour pouvoir savoir ce qu'on fait, où on va dans ce monde incertain. Hein. Il a raison, c'est un brave homme. Et d'ailleurs, dans les études, il y en a une autre qu'on a aussi qui dit que fumer de l'herbe est 114 fois moins dangereux que de boire de l'alcool. Et donc, c'est dans Les Hommes Modernes, je ne sais pas qui a écrit ça, c'est la rédaction. Voilà.
Alors, oui, c'est un article d'un site internet qu'on ne connaissait pas, leshommesmodernes.com, qui reprend le résumé en fait, d'une étude américaine qui s'appelle Comparative Risk Assessment of Alcohol, Tobacco, Cannabis and Other Illicit Drugs Using the Margin of Exposure Approach. Et vous pouvez consulter, si ça vous intéresse, ces extraits de rapport sur un site totalement officiel, le site national de la publication des œuvres scientifiques américain. Donc c'est www.ncbi.nlm.nih.gov. Donc déjà, si vous avez tapé tout ça, vous n'êtes pas loin. Et plus loin, donc, enfin, juste après gov/pmc/article/pmc en majuscule 431-1234/. Je pense que vous n'avez pas.
Et t'es allé sur le site alors ?
Entendu. Je suis allé sur le site parce que. D'accord.
Mais je n'ai pas eu le temps, c'est pour ça que.
Sur le site Les Hommes Modernes, il y avait marqué source de l'information. Donc je suis allé sur le site de ncbi.nlm et j'ai constaté que c'était. Le site de publication nationale américain des revues des études scientifiques, c'est National Library Monitoring, je sais pas quoi. Enfin,
d'accord.
C'est visiblement une étude qui a l'air super sérieuse. Hein,
d'accord.
Même si,
tu en as lu un petit, tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur le nombre, sur comment ça s'est fait.
J'ai surtout lu l'article des Hommes Modernes. D'accord. Je ne me suis pas forcément attardé sur l'étude elle-même, qui est un résumé, mais qui était quand même assez longue à lire. Donc je voulais quand même vous citer le titre officiel en anglais de l'étude. Mais voilà, donc qu'est-ce qu'ils ont fait aux États-Unis ? Ils ont fait une étude pour savoir quelle était la drogue la moins dangereuse, la moins létale, en fait, hein, aussi. Donc le cannabis serait donc la drogue la moins dangereuse, mais moins encore que l'alcool, comme l'explique cette nouvelle étude, ayant comparé les risques associés à la consommation d'alcool, d'héroïne, de cocaïne, de tabac, d'ecstasy, de méthamphétamine et de cannabis. Au niveau de l'usage individuel, nous dit les chercheurs, c'est l'alcool qui a été jugé comme la substance la plus mortelle, suivie par l'héroïne et la cocaïne. Et tout en bas de ce classement, on retrouve donc le cannabis, dont l'usage serait 114 fois moins risqué que l'alcool. Pour en arriver à de telles conclusions, les auteurs ont comparé les doses létales d'une substance donnée à la quantité consommée par une personne normale, entre guillemets. En résumé, il est relativement compliqué de mourir d'une overdose de cannabis, à moins de se prendre une tonne sur la tête lancée du cinquième étage. Ça, c'est moi qui le rajoute, hein. C'est pas dans l'étude. De quoi remettre en question donc la manière arbitraire dont sont montées les lois combattant l'usage des drogues, puisque la substance offrant le risque de décès le plus élevé est actuellement en vente libre et légale, à contrario du cannabis dont l'usage est encore prohibé chez nous. En conclusion, les auteurs de l'étude suggèrent, étant donné le peu de risques associés à son usage, de réguler l'approche du cannabis plutôt que de rester sur une prohibition pure et simple, plus facile à dire qu'à faire. En France, ouais. En tout cas.
Mais... ça caf, quoi.
Donc voilà, une étude sérieuse dont la presse française ne parlera probablement jamais. Préférant s'intéresser aux études un peu plus, je sais pas comment dire, polémiques ou pas, mais dont les journalistes comprennent pas forcément les tenants et font un titre alarmant et effrayant. Ouais. On a vu le cas il n'y a pas très longtemps, un article scientifique, et les journalistes du Monde qui avaient titré l'étude, qui avaient titré l'article parlant de l'étude de manière complètement fantasmagorique.
D'accord.
Donc ça, ils aiment bien, ouais. Mais bon, voilà une étude comme ça.
Allez, de fat caf, quoi. Allez.
Tous les lundis.
Je tire une taf.
Voilà.
Ça va mieux.
Après ça, donc on a une autre étude plus thérapeutique. Donc là,
alors c'est pas une étude.
C'est
non.
Pas une étude.
C'est,
oui,
pas une étude, c'est un article qui est tiré de pourquoidocteur.fr, un article du 16 février dernier, qui relate en fait un congrès, un peu ce qui s'est dit durant un congrès d'experts. C'était le congrès annuel de l'Association américaine pour l'avancement de la science, qui s'est tenu du 12 au 16 février dernier à San José en Californie, aux États-Unis. Et donc, à ce colloque, il y avait des spécialistes de la douleur et de la recherche, et notamment qui ont débattu notamment sur le cannabis et sur l'intérêt d'un usage médical de cette substance. Alors, l'article est intéressant parce qu'il montre que selon les endroits, on n'a pas la même perception des bénéfices du cannabis. Et on va y venir, mais on va parler un peu de la France. Mais donc voilà, en
mais
tout
voilà,
cas...
Ils veulent donc renforcer leurs connaissances ensemble.
Ça serait bien. Donc sur le plan législatif, nous disent les journalistes de Pourquoi Docteur, sur le plan législatif, il n'y a pas de consensus qui existe sur l'utilisation du cannabis en médecine. Alors on nous parle de la France qui va bientôt autoriser, ou qui autorise déjà, hein, normalement le Sativex, dans le traitement des douleurs musculaires dans la sclérose en plaques. On nous parle aussi de l'Allemagne qui, à son tour, délivre des autorisations au cas par cas, qui permettent à des patients de cultiver leur propre cannabis. Mais dans la communauté médicale, il y a aussi un grand flou qui règne. Et donc, parmi les membres des communautés scientifiques, notamment au niveau de la médecine, alors là, dans Pourquoi Docteur, on nous cite les membres de l'Académie de médecine française, hein, qui considèrent, eux, qu'aucune preuve ne justifie le recours thérapeutique au cannabis ou à ses principaux principes actifs. Mais par contre, tous ne partagent pas cet avis. Voilà. Je ne crois pas que tous les médecins doivent prescrire du cannabis médical ou que tous les patients peuvent en tirer profit, mais il est temps de renforcer notre base de connaissances scientifiques et d'en discuter de façon éclairée avec les patients. Alors, c'est pas un médecin français membre de l'Académie française de médecine qui dit ça. Hein. C'est le docteur Mark Ware, qui est le directeur de la recherche clinique à l'unité de gestion de la douleur au Centre universitaire de santé McGill au Canada. Lui, il plaide plutôt en faveur d'une recherche approfondie dans le domaine, ce docteur Mark Ware. Le professeur Roger Purty, qui est professeur de neuropharmacologie à l'université d'Aberdeen au Royaume-Uni, lui, par contre, il souligne le fort potentiel thérapeutique du cannabis. Voilà. Nous avons observé, dit-il, qu'un composant non psychoactif du cannabis, appelé tétrahydrocannabivarine, mieux connu comme THCV, produit des effets antischizophréniques dans un modèle préclinique de la schizophrénie. Alors apparemment, il a aussi découvert le THCV. Il a découvert le THCV et il en a fait des petites études sur cette molécule pour voir ce que ça faisait sur des personnes qui étaient atteintes de schizophrénie. Donc il croit à son projet dès le départ, lui. Mais donc dans cet article, on dit que voilà, bon, la littérature livrait quand même des conclusions assez disparates sur le cannabis thérapeutique. L'Académie américaine de neurologie a réalisé une revue d'études comparant l'action du cannabis face à un placebo. Et elle écarte tout intérêt dans les maladies de Parkinson ou de Huntington.
Ouais.
Voilà. Mais elle confirme son efficacité dans la sclérose en plaques ou l'hyperactivité de la vessie. Ah, donc il y a des applications, quoi.
Il y a des applications. Il y a plein de petites études sporadiques qui arrivent. Et avec la légalisation qui est en train de voir le jour, peut-être que les études vont plus évoluer. On peut espérer. Mais
alors, ce qui ressort quand même de ce colloque, de cette table ronde, c'est que la diabolisation du cannabis médical doit cesser. Voilà, ça, c'est quand même important. Des examens IRM ont quand même suggéré que c'est chez les usagers récréatifs des altérations survenaient dans les zones du cerveau associées aux émotions et à la motivation. Alors on nous dit comme ça, les méta-analyses d'études neurocognitives approfondies ne parviennent pas à démontrer un déclin cognitif significatif pour les utilisateurs récréatifs. Bon, c'est quand même important. Ça c'est le directeur du centre de recherche sur le cannabis médical à l'université de Californie à San Diego, le docteur Igor Grant, qui le dit. Il dit, bah, voilà, à partir du moment où on ne démontre pas un déclin cognitif significatif sur les utilisateurs récréatifs, a priori, c'est pas forcément très dangereux, quoi. Enfin, il n'y a pas de risque néfaste. Et il dit comme ça en plus. De plus, en imagerie cérébrale, les résultats sont variables et les études les mieux conçues montrent des effets nuls. Bon. Côté français, le professeur Amine Benyamina, qui est addictologue à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, dans le Val-Marne, il a lui adopté une posture similaire dans Le Monde dernièrement. Il dit comme ça qu'il est dommage de condamner le cannabis sans l'avoir expérimenté ou bien de tirer des conclusions à partir d'études qui ne respectent pas les standards de qualité comme c'est souvent le cas. Outre le THC, principal responsable des effets psychotropes, le cannabis contient une centaine de cannabinoïdes dont les effets s'exercent à plusieurs niveaux.
Et ça, c'est texto dans le texte. Hein. Alors que si vous avez écouté nos émissions depuis des années, vous l'avez déjà entendu au moins 10 fois.
Benyamina ?
Non, le fait que le cannabis contient des centaines de cannabinoïdes, dont tous s'exercent de façon
niveaux, oui.
différent, de façon contrastée, façon convexe, voilà, de différentes façons diverses.
Ouais. Alors,
Qu'une plante est toujours mieux qu'un médicament, parce que justement, c'est composé de plein de cannabinoïdes.
Voilà,
un petit peu tout ce qu'on disait depuis des années. Donc, c'est intéressant de voir que c'est repris par.
Par des scientifiques, des chercheurs qui font
de médecine. Voilà. Allez.
Ce soir, c'est un peu les inédits qu'on vous passe jamais. Donc là, c'était Général Alcazac, je fume. Voilà, pour terminer, alors avant.
À faire gagner les places, bien
alors,
sûr.
Donc, la question de ce soir, c'est quel prochain État, au 1er juillet 2015, donc, mettra en œuvre la légalisation du cannabis aux États-Unis ? Quel est le prochain État des États-Unis qui, le 1er juillet 2015, mettra en œuvre la légalisation du cannabis, donc aux États-Unis. Voilà, donc vous nous répondez par mail, un petit mail cirque-lyon@no-log.org pour gagner une place au salon Technigro le 27 et le 28 mars prochain.
Tout à fait, qui se déroule au double mix à Lyon.
à Ladoix, sur le campus de Ladoix, à Villeurbanne.
Voilà, qu'on peut y aller par
le tram.
Le tram, T1, T3, je crois.
Ah, je ne me rappelle plus lequel.
Il y a aussi le salon des artisans des brasseurs en même temps, voilà, juste.
Le même
pass donne accès aux deux et au salon des plantes et des nouvelles techniques de la culture. Voilà, c'est.
Donc, vous nous répondez par internet, cirque-lyon-bosno-log.org. Et le premier mail qui est arrivé dans notre boîte et qui nous donne la bonne réponse, à savoir quel est le prochain état des États-Unis qui légalisera le cannabis le 1er juillet 2015, le 1er juillet prochain.
Voilà.
Okay, oui. On l'a dit tout à l'heure.
Tout à fait.
Fallait écouter le cinquième. Et ça, le cinquième état. Voilà. Donc, pour terminer, on va parler un peu de Canavap. Souvenez-vous, Canavap, au mois de décembre dernier, c'était une petite société qui voulait mettre sur le marché des cigarettes électroniques au goût de chanvre et qui avait créé un buzz pas possible avec Marisol Touraine, ministre de la Santé, demandant, menaçant de déposer plainte contre Canavap, donc de saisir la justice, blablabla, voilà. Et puis depuis, on n'a plus entendu parler de Canavap. Et là, c'est dans Metro News, la semaine dernière, lundi dernier, eh bien, le cofondateur de la start-up, donc Sébastien Bugri, a été visiblement interpellé, ou en tout cas les enquêteurs ont fait une perquisition chez lui, donc avant qu'il fasse une perquisition, il faut qu'il l'ait arrêté quand même. Voilà, perquisition chez lui, chez ce monsieur, où on a trouvé 19 pieds de cannabis. Il est donc accusé de consommation, de détention et d'achat de cannabis, mais pas de culture, c'est bizarre, ça. Il est un peu mal foutu cet article, il y a des choses un peu bizarres dedans. Enfin, c'est pas bien clair, pas bien précis.
Surtout, il l'a transformé, il a mis du cannabis dans les vaporettes, ou il l'a vaporisé, ou je sais pas comment il a installé ça, mais bon, en tout cas, la police lui charge des noix, et il risque jusqu'à 10 ans de prison. Mine de rien.
Alors, non, il a pas mis du cannabis dans son cigarette électronique, on le suspecte de vouloir le faire.
Oui, mais il était pharmacien.
Oui, mais c'est pas.
C'est son nom qui est associé à Antonin Cohen. Ils ont exercé donc ensemble en introduisant du chanvre dans la composition de l'or vapoteuse. Donc voilà, il me semble que lui et son comparse.
C'est ce que la justice veut prouver, mais c'est pas parce qu'il avait du cannabis chez lui qu'ils ont fait ça.
On ne sait pas, en fait. Voilà, mais bon, c'est un fait divers parmi.
Mais non, c'est grave. C'est grave. Attends, ils ont lancé ce truc en mois de décembre.
Voilà.
Là, on trouve du cannabis tout de suite et on veut les poursuivre pour. Enfin, on est encore complètement dans la diabolisation et l'obsession anticannabique. On fait des raccourcis. Pour l'instant, ça reste à prouver tout ça. Voilà.
C'est vrai. Bref, en tout cas, pour finir, pour ne pas finir, c'était juste l'histoire d'un pauvre prêtre en Pologne.
Cet homme-là.
Bah oui, il était arrêté avec des jeunes de 16 et 17 ans en train de fumer. Et voilà. Et donc pour ça, il va sans doute aussi être un petit peu embêté.
C'était en Pologne.
Voilà. Et ben c'est là-dessus qu'on va vous laisser.
Eh bien, oui, si tu veux. C'est la fin de Cannabis Circus. L'émission du Cirque Lyon, comme tous les lundis soirs, de 21h à 22h. On va redonner nos coordonnées quand même. Le Cirque Lyon, vous pouvez contacter au 06 11 53 10 07. Vous pouvez nous écrire par mail cirque-lyon-basno-log.org et donc répondre à la fameuse question mystère pour gagner des places à Technigro. Vous pouvez nous envoyer un courrier à Cirque Lyon BP 93 043 69 605. Villeurbanne, Cedex. Voilà, c'est la fin de Cannabis Circus. On vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à la semaine prochaine.
Ciao à tous.
Et maintenant,
ciao
c'est Chasseurs de son.
À dans quelques temps.
Au revoir.